Good Morning Business, spéciale élection européenne avec la Tribune. Décryptage, débat et reportage. Good Morning Business vous accompagne jusqu'au résultat. Good Morning Business, spéciale élection européenne. Laure Clauzier.
À 9h, BFM Business vous accompagne autour des élections européennes et on commence avec ce sujet de défense. L'Europe a-t-elle les moyens de se protéger? Pour m'accompagner ce matin, Michel Cabirol, bonjour, vous êtes journaliste défense à la Tribune et notre premier invité, c'est Emmanuel Kiva, délégué général pour l'armement. Merci d'être avec nous ce matin. On va vous interroger évidemment sur ces enjeux de défense européenne. Une Europe forte, qu'est-ce que c'est? On va voir si notre tissu de PME arrive à s'organiser comme il le faut. Mais on est allé voir avant comment les industriels européens utilisent les fonds. Reportage chez Arcus dans les Yvelines, l'un des leaders européens des véhicules blindés. Reportage de Timothée Marouzet.
Je me trouve ici chez l'un des leaders européens des véhicules blindés et le fournisseur de 90% des véhicules à roues de l'armée de terre française. Un groupe qui finance une partie de sa R&D grâce au Fonds européen de défense et qui espère bien bénéficier d'un renforcement de l'Europe de la défense.
Alors Arcus est une ETI française de 1500 employés répartis sur 4 sites de production et un site tertiaire. Et nos activités vont de la conception au montage de véhicules jusqu'au maintien en condition opérationnelle.
Depuis 3 ans, Arcus travaille avec une trentaine d'industriels de la défense à travers l'UE sur des projets de R&D. Montant de l'enveloppe fournie par l'UE, 7,9 milliards d'euros sur 7 ans est réparti entre les différents industriels européens. Les concurrents deviennent donc à travers ce fonds des partenaires. Pour cela, chacun travaille sur des briques technologiques propres afin de préserver leur savoir-faire. Solène Dupont de Romémont est chef de projet aux affaires européennes chez Arcus.
Ce qu'on a observé, c'est que ça nous permet de mobiliser jusqu'à 20% de notre R&D sur ce fonds européen de défense. Donc c'est un vrai levier financier pour nous et surtout ça renforce la légitimité d'Arcus sur la scène européenne en tant qu'acteur clé de l'innovation.
Dernier enjeu de taille, la synchronisation entre partenaires européens, souvent complexe, puisque chaque industriel priorise d'abord les besoins d'armement nationaux avant les besoins européens. Pourtant, les ambitions à Bruxelles pour aller plus loin sont bien là. Thierry Breton proposait en janvier dernier l'idée d'un fonds de défense européen de 100 milliards d'euros.
Alors Emmanuel Kiva, cette idée, on voit bien à quel point l'argent c'est le nerf de la guerre, cette idée d'un fonds européen de défense, 1,5 milliard d'euros, c'était une promesse autour de 100 milliards. Est-ce que les fonds vont arriver ou est-ce qu'on est très loin en fait de ce qu'on voulait faire?
Alors, je laisserai les aspects politiques, puisque ça n'est pas mon rôle, aux responsables. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté de consolider cette base industrielle et technologique de défense européenne. Et d'ailleurs, l'Europe vient de publier une stratégie européenne de défense qui fait suite à un certain nombre d'outils qui avaient été mis en place, notamment pour doper la production européenne. Ce qui est certain, c'est que avoir 1,5 milliard, c'est bien, et ça s'ajoute surtout aux efforts qui sont consentis par chacun des États, puisque le but, et la difficulté aussi d'ailleurs, de cette ambition de consolidation européenne, c'est de quand même préserver à la fois l'autonomie stratégique de l'Europe, mais préserver la souveraineté de chacun des États européens. Et donc les budgets nationaux vont venir s'ajouter évidemment à ce fonds.
Michel Cabirol.
Oui, alors Emmanuel Kiva, j'aimerais vous faire réagir sur un chiffre qui est quand même assez dérangeant sur l'Europe de la défense. On voit bien que 55% des importations de systèmes d'armes en Europe proviennent des États-Unis. 55%, c'est énorme. Alors que dans le même temps, donc sur la période 2019-2023, alors que dans le même temps, l'Allemagne importe en Europe à peu près 6,4% des systèmes d'armes et la France 4,6%. Qu'est-ce que ça vous inspire? Comment réagissez-vous à ce chiffre un peu dérangeant pour l'Europe de la défense?
Alors d'abord, je pense qu'il y a une prise de conscience, effectivement, que l'argent européen doit être utilisé pour faire de la défense européenne. Et d'ailleurs, dans cette stratégie de défense dont je parlais à l'instant, il y a cette ambition qu'il y a à peu près 50% des acquisitions qui soient réalisées en Europe d'ici 2030. Maintenant, qu'est-ce que ça m'inspire? Ça m'inspire le fait qu'il faut aller plus vite, plus loin, notamment parce que acheter américain, c'est aussi consentir un certain nombre de dépendances. Il y en a une qui s'appelle l'ITAR. L'ITAR, c'est quoi? C'est en fait le fait de pouvoir considérer qu'un composant américain inséré dans un système d'armes peut vous empêcher d'utiliser à votre guise le système en question ou de l'exporter. Et donc, si on veut véritablement être autonome en termes de stratégie de défense européenne, il faut désitariser nos systèmes. Ça tombe bien, l'Europe en a les moyens. Elle a une base industrielle et technologique de défense forte. Elle a beaucoup de forces technologiques. Et donc, on a les moyens d'avoir des équipements qui ne sont pas dépendants du bon vouloir de l'administration américaine, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit.
Vous dites l'Europe a les moyens. On a une base industrielle forte, mais on a nos géants, puis on a nos champions PME et ETI qui parfois sont très fragmentés, ont besoin de consolidation. Et c'est pas qu'ils râlent aujourd'hui en disant on n'arrive pas. Ils aimeraient pouvoir produire autant, mais ils ont des difficultés sur tous les plans.
Alors, effectivement, ce qu'on appelle la BITD, c'est dans l'armée, on aime bien les acronymes, donc base industrielle et technologique de défense, c'est à peu près 10 grands maîtres d'œuvre. Et derrière, vous avez 4500 sous-traitants, PME, qui font l'objet de toute l'attention de la DGA et de toute l'attention du ministère des Armées. D'abord parce que c'est notre métier de pouvoir maintenir, consolider. Et d'ailleurs, cette industrie de défense, ces PME, pendant la crise Covid, aucune n'est morte. C'est-à-dire qu'on a, on est allé interroger, soutenir individuellement chacune des PME. Nous venons de créer la direction de l'industrie de défense à la DGA, dont l'un des rôles, c'est aussi de suivre ces filières-là. Et vous avez raison, il peut y avoir des difficultés. Vous savez que le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, s'est emparé du chantier économie de guerre, c'est-à-dire d'être prêt à accélérer la production. Pour accélérer la production, on peut dire à un Thales, à un Safran, à un MBDA, il faut accélérer. Mais derrière, vous avez des sous-traitants de rang 1, 2, 3. Et donc, notre métier aussi, c'est d'identifier les goulets d'étranglement, de fournir des solutions, de l'accompagnement qui peut être...
Là, ils sont où, ces goulets? Ils sont sur les talents?
Ils sont partout. Ils peuvent être sur les talents. Alors, c'est pas dramatique. On a fait cette analyse-là. On travaille avec la BPI. Aujourd'hui, il y a à peu près une cinquantaine de goulets d'étranglement sur des systèmes critiques qui ont été identifiés, qui sont en cours de résolution. Il y en avait 200 il y a un an. Donc vous voyez qu'on travaille, et puis on travaille. Mais ça peut être effectivement sur des talents, sur des matières premières, sur des machines, des capacités de production. Et donc ce qui est essentiel, c'est que cette visibilité qu'on donne aux maîtres d'œuvre industriels, elle se traduise derrière, elle soit restituée aux sous-traitants.
Michel Cabirol.
Alors, sur l'économie de guerre, le ministre a parlé beaucoup de réquisition, de priorisation. Vous en êtes où exactement sur ces deux volontés ministérielles d'accélérer les approvisionnements de la BITD?
Alors, en fait, dans la loi de programmation militaire, vous avez un certain nombre de mesures normatives qui ont été prises. L'une, c'est d'abord la constitution de stock. Et là-dessus, le ministre a déjà fait les premiers arrêtés permettant à nos industriels de constituer des stocks. Il ne faut pas voir ça comme des stocks immobilisés, c'est plutôt un fonds de roulement. Ensuite, il y a d'autres armes, si j'ose dire, dans le bon sens du terme, parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire uniquement de la contrainte, mais on est prêt à le faire si nécessaire, permettant, par exemple, pour des sociétés qui sont des sociétés duales, qui ont à la fois des programmes militaires et des programmes civils, de leur demander de passer les programmes militaires, le cas échéant, en priorité. Alors, c'est pas non plus gratuit, ça signifie qu'il y a tout un dialogue avec nos industriels pour savoir comment on peut les aider là-dessus, mais effectivement, on peut aller jusqu'à la priorisation, voire jusqu'à, le cas échéant, la réquisition d'hommes, de matériel.
Vous l'avez fait déjà
première. Non.
Pas encore.
Non.
Il n'y a
ça
pas eu ce besoin.
Ça fait partie des pouvoirs
c'est
de police,
possible.
Si je veux dire, du ministre.
Vous payeriez une surprime?
Alors oui, tout est prévu dans la loi, c'est plutôt bien fait. On a fait une loi de programmation militaire qui justement permet de rentrer dans cette économie de guerre. Il y a évidemment des compensations. Simplement, il faut là aussi bien raisonner. Il ne faut pas que les compensations qui, par exemple, dans le cadre des priorisations, sont affichées, soient un moyen détourné pour des entreprises d'avoir du cash. Donc évidemment, ça passe par un dialogue avec les industriels, mais on a toute la gamme des outils qui est disponible.
Notre enjeu aussi de l'Europe de la défense, c'est de faire travailler nos industriels ensemble au niveau européen. On a vu à quel point ça pouvait être compliqué dans des programmes de type SCAF. On en est où sur le SCAF? On arrive désormais à collaborer ou on est toujours à dire que chaque industriel doit avoir la main?
Ah non, on collabore. Il y a une étape majeure qui a été franchie au mois dernier sur le SCAF, qui est le choix de la forme, finalement, du démonstrateur, et qui a été agréé par les trois États. Je rappelle donc France, Allemagne et Espagne. Moi, j'étais venu sur votre antenne il y a à peu près un an et demi, et vous étiez votre collègue était très dubitatif sur le fait qu'on arrive à lancer le SCAF. Vous voyez qu'on y arrive.
On y arrive.
Et on arrive aussi à lancer le MGCS. Donc, simplement pour que tout le monde s'y retrouve, le SCAF, donc, c'est le système de combat aérien du futur, c'est-à-dire à la fois un avion de sixième génération, mais entouré d'effecteurs dronisés, et tout ceci dans un cloud de combat. Et le MGCS, comme l'a dit le ministre, c'est plutôt le futur du char, C'est-à-dire effectivement un char lourd avec d'autres effecteurs à côté. Ça peut être des blindés dotés d'armes innovantes, des drones et là aussi un cloud de combat. Et ce projet est en bonne route.
Michel Cabirol.
Mais cela dit, sur le SCAF et sur le MGCS, là on parle beaucoup plus aujourd'hui d'études amont et pour le SCAF de démonstrateurs. Mm-hmm. Aujourd'hui, les deux programmes ne sont pas lancés. Quels sont les déclics qu'il faudrait pour justement lancer ces deux programmes à l'horizon 2027?
Je ne dirais pas qu'ils ne sont pas lancés. Ils sont lancés dans leur première phase. Ouais. Et la phase 1B, dite 1B du SCAF, elle inclut également des démonstrateurs. Alors, ce n'est pas des avions qui volent, démonstrateurs sur banc d'essai, sur drones, notamment sur drones civils, sur toute l'avionique. Et il y aura, avant l'entrée en phase 2, une démonstration notamment sur tout ce qui est connectivité.
Et est-ce que vous pensez qu'il y a une bonne volonté de travailler, de coopérer entre Airbus et Dassault?
Alors, je laisserai Airbus et Dassault le soin de répondre. Le fait est qu'ils coopèrent. Donc oui, je pense qu'on a aujourd'hui réussi à avoir un équilibre, de la même manière qu'on va avoir un équilibre dans MGCS entre les quatre sociétés qui participent, donc KMDS France, KMDS Allemagne, Nexter, c'est l'ancien nom de KMDS France, Thales et Rheinmetall. Et c'est ça qui est toujours un petit peu compliqué à construire, avec le MGCS en miroir du SCAF. Le SCAF, c'est sous le leadership français, le MGCS, c'est sous le leadership allemand. Et là aussi, je vous dis qu'il est lancé. Ça signifie qu'il va y avoir une société de projet qui associera à part égale les industriels, donc 50% pour la France, 50% pour l'Allemagne, et que normalement, le premier contrat devrait être notifié au tout début de 2025.
Il y a des filières aussi entières à créer, par exemple comme celle du drone. On a vu à quel point c'est important, notamment dans la guerre en Ukraine. On a Turgis et Gaillard en France qui commencent à avoir son drone, mais il n'est pas encore effectif, il n'est pas encore lancé. On a tout un système là à créer, avec un écosystème à créer. Est-ce qu'on va y arriver à avoir notre filière drone en France ou pas?
Alors la réponse est oui. Et là aussi, on a revu en profondeur la stratégie drone du ministère des Armées, qui ne se limite pas simplement aux drones aériens. Je rappelle qu'il y a aussi les drones navals, qu'ils soient sur ou en dessous de la mer, des drones terrestres. La robotique terrestre, ce sont des drones aussi. Donc oui, nous avons une feuille de route aujourd'hui. Il y a eu une difficulté, et cette difficulté, elle est liée au fait que, effectivement, il y a un retard à l'allumage, si vous me passez l'expression, mais qu'aussi on a la convergence finalement de deux mouvements. Des dronistes qui sont spécialisés dans les drones, plutôt d'ailleurs des drones de divertissement, et qui vont aller sur le segment des drones professionnels, et en même temps des avionneurs qui vont descendre sur les drones tactiques. Turgis et Gaillard, c'est extrêmement intéressant. Leur drone qui s'appelle Aarok, ça n'a pas été une commande de l'État. C'est eux qui ont décidé, de manière autonome, de pouvoir développer ce concept, qui d'ailleurs vient d'être essayé en termes de moteur. Donc l'allumage du moteur du drone Aarok, c'était le mois dernier.
Mais si je ne me trompe pas, Michel Cabirol, ce drone, pour l'instant, il n'est pas sur le marché.
Il n'est pas sur le marché. En tout cas, commercialement, il peut être sur le marché, mais il n'a pas volé encore. D'accord. Donc ça, ça reste à démontrer.
Hein, oui, nous le soutenons. Hein, nous le soutenons en termes d'essais et en termes de suivi.
Alors justement, on a parlé des drones, pour l'Europe de la défense et même pour la France. Quelles seraient les technologies clés, disruptives, qu'il faut absolument que l'Europe et la France maîtrisent pour rester vraiment dans la course à côté des Chinois et à côté des Américains?
Et vous avez un sujet d'ailleurs dont vous venez de parler, puisqu'il y avait un sujet sur l'intelligence artificielle de défense. Vous avez rappelé par la création par la ministre de cette agence ministérielle de l'IA de défense. Il est clair que sur l'IA, l'impact est tel qu'on ne peut pas se permettre d'être déclassé. Ça tombe bien, l'IA c'est essentiellement des maths, et la France c'est plutôt un pays qui est bon en maths. Donc évidemment l'IA, le quantique, c'est-à-dire que c'est une marotte, j'en parle à chaque fois, mais je suis vraiment convaincu que cette rupture technologique peut engendrer des ruptures géostratégiques dans le domaine des capteurs, dans le domaine du calcul.
Est-ce qu'on est bon en France et en Europe sur le quantique?
On est excellent.
On a Pascal.
Sur le quantique. On a plus que Pascal. On vient de lancer un projet qui s'appelle Proxima avec France 2030. Le but, c'est de prendre les 5 meilleures start-up aujourd'hui du quantique en France et d'aller les financer et de garder au fur et à mesure celles qui semblent les plus prometteuses en vue de développer un ordinateur quantique parfait. Et si vous comparez les tailles de ces sociétés, qui sont souvent des sociétés de 100, 150 personnes, je pense à Alice et Bob, je pense à Pascal, je pense à Candela par exemple, vous vous rendez compte que c'est à peu près la même taille que les équipes qui sont chez les géants type Google et IBM. Et donc là, pour le coup, on est vraiment compétitif avec, là aussi, des maths et des équipes qui sont compétitives au niveau mondial. Donc le quantique, c'est sûr. Et puis, pour répondre à votre question complètement, je rajouterai l'hypervélocité. L'hypervélocité, c'est quoi? C'est aller à plus de 6 fois la vitesse du son, tout en restant manœuvrant.
Oui.
Qui est évidemment pas un sport de masse. Et vous avez vu qu'on est rentré dans une phase d'expérimentation aujourd'hui avec un programme qui s'appelle VMAX, un essai qui s'appelle VMAX, véhicule manœuvrant expérimental, avec un premier tir qui a eu lieu l'an dernier depuis DGA SN Missile à Biscarrosse.
Emmanuel Kiva, on est à un mois des élections européennes. Donald Trump ne cesse de dire « Europe, réveillez-vous ». Emmanuel Macron le fait régulièrement avec des discours parfois un peu choc dont il estime qu'il faut réveiller les Français. Vous avez l'impression que là, clairement, on a ouvert les yeux?
Je pense qu'on a ouvert les yeux. L'augmentation des budgets militaires que vous signaliez précédemment en témoigne. Je pense que maintenant, il faut se consolider sur le fait de faire véritablement à la fois des synergies industrielles, on en a parlé, des synergies technologiques. Et là, des instruments comme le Fonds européen de défense nous permettent de développer des briques technologiques ou scientifiques qui vont être utilisées par l'ensemble des États membres. Et puis aussi des synergies opérationnelles. On voit ce qui se passe, par exemple, dans notre collaboration avec la Belgique, où aujourd'hui, on collabore dans le cadre du programme Scorpion, donc les véhicules de dernière génération, véhicules blindés et systèmes de combat terrestre du futur, si j'ose dire, nous entraînons avec la Belgique, nous développons des concepts avec elle. C'est sans doute un modèle qui mérite d'être élargi.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Emmanuel Kiva.